train de se passer vous inquiète pour le moment, mademoiselle.
Alors, bonsoir à tous. Je ne pense pas que la menace soit spécialement plus grave, on va dire, en ce moment. Personnellement, je ne me sens pas menacée en tant que telle. Et je ne pense pas que la Russie va aller jusqu'à mettre en œuvre ces menaces militaires. Et aussi, je ne pense pas que ça soit dans son intérêt stratégique, économique, etc.
Autre avis, à côté de vous, monsieur, plus inquiet ou pas du tout inquiet ?
Un petit peu, en tout cas, rien ne va dans le sens de la désescalade. On voit qu'il y a des avions qui ont traversé les espaces aériens de pays de l'OTAN, des drones qui ont été envoyés depuis la Russie, et d'autres drones, on ne sait pas trop bien d'où ils viennent. Donc voilà, il y a certainement des actes pour lesquels il faut se poser des questions. Et je pense que oui, c'est quelque chose que nous devons surveiller.
Nous entendrons ce soir et à de nombreuses reprises l'ambassadeur de Russie à Bruxelles. Nous entendrons aussi Théo Franken et bien sûr nos invités en plateau. Mais tout de suite, on se plonge pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe dans ce que nous avons subi ces derniers temps, ce que la Belgique subit. C'est un QR vous explique et il est signé Maud Wilquin.
La Belgique est-elle la cible de guerres hybrides ? Alors, il est vrai que depuis quelques années, on a dû faire face à un paquet d'attaques, mais c'est pas évident de deviner qui se cache derrière. Certaines sont effectivement attribuées à la Russie, mais pas toutes. Sur l'ensemble des attaques, il y a eu, souvenez-vous, des cyberattaques qui ont été menées sur des sites d'institutions publiques ou privées, ou encore des administrations publiques, comme le service public de Wallonie. Et il y a eu aussi le survol du camp militaire d'Elsenborn par des drones, ou encore l'intrusion de navires russes au large des côtes belges. Au niveau des chiffres, on estime que le nombre de cyberattaques a doublé ces 5 dernières années. Donc concrètement, ça nous donne par semaine plus de 1200 attaques dans le secteur de l'énergie, plus de 1800 dans les entreprises, un petit peu moins de 2000 dans le secteur financier et enfin un peu plus de 2200 dans le secteur des soins de santé. Mais pourquoi la Belgique est-elle la cible de ce type d'attaque ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que notre pays abrite de nombreuses institutions européennes ou autres institutions importantes comme l'OTAN. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a des ports importants dans notre pays, ainsi que des secteurs bien développés, comme par exemple le secteur pharmaceutique ou des télécommunications.
On parle de ces drones pour commencer, qu'on a vu survoler une base militaire en Belgique à Elsenborn. Est-ce que cette situation, ces survols vous inquiètent ? C'est la première question qu'on vous a posée. Là, c'était plus tôt dans l'après-midi et on découvre le résultat de vos avis. Il y a effectivement de quoi être inquiet. Je ne vois pas les résultats s'afficher et ils ne vont manifestement pas s'afficher. C'est bien dommage, on y reviendra dans un instant et on va tout de suite écouter, si vous voulez bien, Théo Franken, le ministre de la Défense. Il est actuellement en mission en Californie. Très court extrait d'une interview qu'il nous a donnée ce matin, et on l'écoute à propos de ces menaces de drones. D'où est-ce que ça vient et que peut-on faire ? Écoutons-le.
Plusieurs drones, des grands drones. Alors ça veut dire que c'était pas la défense belge, c'était pas une opération secrète, une opération de nous. Ça c'est clair. Mais l'origine qui a fait ça, ça c'est encore sous enquête. On ne sait pas sûr. Et c'est souvent avec des attaques hybrides, des opérations hybrides, que c'est très difficile à vraiment trouver ce qui est vraiment qui fait ça. Alors, probablement les Russes, mais on n'est pas sûr à 100%. Alors, on doit être toujours prudent. Mais c'est remarquable et on voit ces opérations drones dans tous les pays européens les derniers jours et semaines. Alors, oui, aussi en Belgique.
Ce matin pour nous, cette nuit en Californie, vous auriez compris. On peut maintenant vous montrer le résultat de vos votes par rapport à ces attaques de drones, ou en tout cas ces survols de drones, n'appelons pas ça encore des attaques. Peut-on voir le résultat ? Oui. Des drones qui survolent la Belgique, est-ce que cela vous inquiète ? Oui, donc à 71%. Bonsoir Guillaume Magéric, vous êtes consultant en cybersécurité. C'est quand même fou, on est dans ce pays géolocalisé au mètre près, en voiture ou via d'autres systèmes, et 15 drones qui survolent une base militaire arrivent à s'envoler dans la nature. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
C'est une bonne, c'est une question. Bonsoir, c'est une question assez difficile de répondre puisque finalement, on sait, comme a dit le ministre, on ne sait pas forcément directement quel type d'appareil c'est. Est-ce que c'est des drones commerciaux ou est-ce que c'est des drones plutôt artisanaux ? Si c'est des drones commerciaux, peut-être qu'aujourd'hui, même si c'est interdit dans la législation, qu'il y a certains contrôles, c'est pas forcément bloqué d'une manière logicielle. Ça veut dire qu'on peut le faire. Et donc peut-être qu'ils cherchent à tester les modes de réaction pour voir
On peut imaginer que ce soit des appareils dont on aurait volontairement retiré donc tous les systèmes d'émission. On parle même, semble-t-il, de drones filaires, hein, des drones qui simplement sont attachés à un câble, qui montent et juste font un petit survol et puis s'en vont.
Bah c'est ce qu'on a vu pendant, dans la guerre en Ukraine, effectivement. C'est que vu que les, habituellement, enfin, en standard, les drones, c'est des ondes radio, on brouille ces ondes. Donc forcément, on casse le lien entre l'opérateur et le drone. Et donc du coup, la réponse, c'est effectivement de faire des drones filaires. Et donc là, là c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, d'y répondre. Et d'un point de vue cybersécurité, ce qui est mon expertise, c'est finalement de forcer les vendeurs de drones commerciaux, et on a déjà des lois en Europe pour ça, mais il faut les mettre en pratique, évidemment, pour le bloquer formellement. Mais les drones artisanaux, là, la cybersécurité...
On ne peut pas faire grand-chose.
Voilà, c'est ça.
La grande question, évidemment, et puis on va se rendre au centre du plateau pour en discuter avec nos invités, on l'a posée à l'ambassadeur de Russie, il s'appelle Denis Gonchard, il est en place depuis peu de temps, et on lui a demandé s'il fallait vraiment considérer que la Russie pouvait être à l'origine de tout ça. Écoutez sa réponse.
Vous savez, il y a beaucoup d'accusations contre la Russie, mais aucune preuve. Permettez-moi de donner des exemples concrets. Par exemple, concernant les drones en Pologne, nous avons déclaré qu'il n'y avait aucun plan concernant la Pologne. Tous les drones ont été utilisés en Ukraine, dans la partie occidentale. Et nos drones ne sont pas capables d'atteindre la Pologne. Ils ont une portée de 700 km, ce qui est insuffisant pour atteindre la Pologne. Mais je n'ai vu aucune accusation de la part des autorités belges affirmant que ces drones observés sur leur territoire étaient causés par la Russie.
Petite précision, j'ai aussi demandé à l'ambassadeur, évidemment, s'il était possible que la Russie ait envoyé des gens plus près de nous avec des drones, avec une portée raisonnable. Il a démenti, évidemment, catégoriquement. Est-ce qu'on doit croire ce qu'on vient d'entendre? Beaucoup ont des doutes. Donc, en gros, la Russie dit clairement, c'est pas nous.
Oh ben, je pense que on a eu suffisamment d'exemples au cours des dernières années. Ça a commencé, je dirais, typiquement en 2008 en Géorgie, où ils ont dit « nous n'avons aucune intention d'occuper une partie de la Géorgie, ils y sont toujours ». Ils n'allaient pas envoyer non plus de troupes en Syrie, ça a été officiellement démenti. Ils ont envoyé des troupes en Syrie. Ils ont dit que les petits hommes verts en Crimée n'étaient pas des Russes. Après ça, ils ont quand même admis que c'était bien des forces spéciales russes. Et deux jours avant le 24 février 2022, une déclaration conjointe de la Biélorussie et de la Russie disait que les militaires, à la fin de l'exercice, allaient rentrer en Russie. Puis on a prolongé l'exercice de deux jours. Pendant ces deux jours, le ministère des Affaires étrangères a continué à dire « nous n'avons aucune intention de passer la frontière ukrainienne ». Et deux jours plus tard, il y a eu... Donc moi j'ai dit c'est une, ça fait partie de leur manière de travailler, c'est leur doctrine de travail. La ruse dans la doctrine militaire est quelque chose qui est documenté, qui est utilisé, c'est-à-dire le mensonge pour en fait...
Vous dites que là, l'ambassadeur a menti, pour le dire clairement.
Voilà. Donc, et mentir de manière à ne pas préparer les défenses de l'adversaire.
Je fais une petite précision à Monsieur Engelen. Commandant Engelen, j'avais promis de le faire et j'ai omis de le faire au moment de votre première prise de parole. Vous exprimez au nom du Centre d'études de sécurité et de défense dont vous êtes le directeur et en aucune manière que ce soit clair en tant que porte-parole de la défense. On entend la réponse ici, les doutes. Jean-Luc Ruc, bonsoir. Vous êtes le ministre de la Mobilité pour les engager. Mobilité veut dire aussi aéroport chez nous. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un ministre inquiet? Il y a des drones qui ont surveillé deux nuits d'affilée hein, l'aéroport de Munich. Il a fallu arrêter les vols. Des milliers de passagers impactés. Aujourd'hui, inquiet ou pas?
Mais en tout cas, je ne crédibilise pas ce qui est dit par l'ambassadeur. Les exemples viennent d'être donnés par le commandant. Mais je pense qu'il devrait se souvenir, comme souvent la diplomatie russe, ce sont des personnes qui sont assez érudites, qui connaissent l'histoire. Vous savez, en 1941, c'était dans le sens inverse. L'ambassadeur d'Allemagne jurait que l'Allemagne n'enverrait pas la Russie. 24 heures après... les Allemands avaient envahi la Russie. Et donc, quand l'ambassadeur dénie des choses, c'est peut-être son rôle. Mais nous, On doit réellement prendre cela au sérieux. Il y a trop d'exemples qui prouvent bien qu'on a des fragilités, mais aussi qu'il y a clairement des réactions à avoir.
Est-ce qu'au niveau des aéroports, en l'occurrence, que ce soit celui de Charleroi, de Liège, de Bruxelles National, vous êtes aujourd'hui quelqu'un d'inquiet, vous disant que ça risque de nous arriver dans pas longtemps ?
Alors, au niveau civil, on est plutôt considéré en Belgique comme étant un bon exemple. On a ce qu'on appelle SKYS qui permet de réguler, et officiellement, on a un régulateur du ciel, et SkyDrones qui, en fait, permet d'identifier les drones lorsqu'ils sont en l'air. Par contre, il y a aussi des zones, et c'est le cas notamment des territoires militaires, des zones qui sont interdites. Et là, évidemment, nous n'avons pas de vue sur ces zones. Donc, je crois qu'une des choses qu'on pourrait faire, c'est améliorer le travail entre civils et militaires, avoir une convention qui permette peut-être de bénéficier de l'expérience justement que les civils ont, avec tout le respect évidemment du secret dont bénéficient les militaires.
Je viens au centre du plateau dans un instant, mais je voulais me tourner vers Joseph Enrotin, qui est rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale. Bonsoir Monsieur Enrotin. Ces drones, d'après vous, c'est d'abord quoi ? On nous espionne ? On est en train de préparer quelque chose de grave ?
Alors peut-être un petit peu de tout en même temps. Fondamentalement, je pense que la mesure première, l'ambition première des gens qui font ça, effectivement, c'est peut-être de tester les systèmes de réaction, peut-être de voir comment réagit la population, le niveau politique, etc., etc. Si ça crée des fractures à l'intérieur de la société. Quand on parle des drones, on parle finalement d'un élément, d'un tableau qui est beaucoup plus large, qui comprend des cyberattaques. On parlait des aéroports en novembre 24, en novembre dernier, un certain nombre de colis piégés ont été retrouvés dans des aéroports, en l'occurrence, destinés à exploser en fait en plein vol, etc. Alors, Dieu merci, ils ont été arrêtés. Mais donc, vous voyez, on a un système qui est global, qui va jouer aussi sur des pressions énergétiques, qui va jouer sur des pressions diplomatiques, avec des démonstrations de force. De ce point de vue-là, ce que dit l'ambassadeur concernant la portée de ces drones est parfaitement faux, vu les endroits en Pologne où on a retrouvé ces drones, c'était très au-delà des 700 km, ou alors ils auraient dû être lancés depuis l'Ukraine, ce qui est complexe.
Quand vous parlez des drones, je me permets d'intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, j'entends dire, il y a des rumeurs qui disent qu'un site très sensible en Belgique est surveillé, ou en tout cas survolé depuis un bon moment par des drones. C'est exact ou pas ?
Alors effectivement, Politico parlait ce matin des forges de Zeebrugge, en fait, de Thales Belgium, donc qui fabrique des roquettes, etc., du côté d'Herstal, qui avait été survolé par des drones. En fait, en l'occurrence, c'est le directeur même de Thales Belgium qui le répercutait. Donc ce genre d'événement, pour de la surveillance, peut-être à terme pour de l'attaque, on n'en sait rien, est appelé très certainement à se prolonger, y compris dans les couloirs d'approche vers les aéroports, donc pas uniquement les aéroports en tant que tels. Et cela pose un certain nombre de questions. Alors maintenant, la défense a des plans. Voilà, il y a des achats qui sont faits, etc. Donc la Belgique n'est pas sans rien non plus. Mais de facto, c'est quelque chose qui est à la fois à prendre au sérieux et en même temps à replacer dans un cadre plus large.
Question qu'on vous a posée via RTBF Actu, et on va y jeter un petit coup d'œil. Sommes-nous impuissants face aux drones, ces appareils qu'on ne voit pas nécessairement voler? Vous en voyez un là de belle taille dans l'écran qui est derrière moi. La question là, voilà, face à ces drones qui nous survolent, pensez-vous que la Belgique est impuissante? Oui, à 54%. Si nous sommes impuissants, Anne Lambelin, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Parti Socialiste. Si on est si impuissant que ça, ou en tout cas si c'est l'impression qu'on nous donne ici, est-ce qu'il n'est pas temps d'investir massivement, justement, dans des appareils anti-drones?
Alors, c'est une bonne question parce que vous abordez directement l'aspect budgétaire. Moi, je voulais d'abord vous dire que la menace, elle est réelle, elle est structurelle, elle doit être prise en main. Et notre devoir et le devoir du gouvernement, c'est de protéger les citoyens sans pour autant tomber dans un vent de panique parce que ça ne serait pas du tout opportun. On est dans un contexte géopolitique extrêmement inquiétant, un contexte de guerre hybride. Moi, je pense qu'on doit oser mettre ces mots-là sur ce qui se passe aujourd'hui, des pressions économiques, survol de drones, attaques cyber et j'en passe. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de protéger les citoyens, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire non plus sur le dos du contribuable. On a vu les positions qui ont été prises par M. Franken au dernier sommet de l'OTAN, une augmentation de 5% du PIB sur le budget de la défense. Ben, c'est hallucinant, c'est un montant exorbitant. On parle de 34,2 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Hein. C'est 6 000 euros par ménage. Et ça, ben, pour nous, c'est trop, c'est irréaliste. En plus, on continue à acheter du matériel américain. On avait, sous Ludivine de Donder, augmenté le budget à défense à 2% du PIB. Une stratégie doit être mise en place et elle doit servir nos propres intérêts, en fait.
Mathieu Michel, certains disent, et on entend cette position, d'autres disent, si c'est le moment d'investir plus massivement que jamais, quelle est votre position à vous là-dessus?
Moi, je pense que c'est surtout important de tenir ses engagements et ses vides le temps. Alors, on n'est pas encore à 2% hein, pour le chiffre, puisqu'effectivement, c'est une promesse qui avait été faite. Et l'engagement au sein de l'OTAN pour assurer notre sécurité, c'est effectivement atteindre, non pas une augmentation de 5%, mais atteindre 5%, en partie en achat militaire, et en partie, c'est important, en achat plutôt de sécurité civile. C'est un élément qui est essentiel. Alors, moi, je pense qu'il y a un élément qui est évident, et on le sent bien aujourd'hui avec ce qui se passe dans le contexte actuel. La sécurité est un élément qui est fondamental et qui, quelque part, conditionne tout le reste. La sécurité conditionne la capacité de développement économique, la capacité aussi d'avoir un État qui soit solidaire. Et donc, quelque part, c'est un fondement à avoir. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce à quoi on est confronté, on le voit bien, c'est quelque part une menace assez sournoise, une menace aussi, quelque part, fondée sur le mensonge, qui teste, en fait, notre capacité à réagir à une volonté, en fait, de modification des équilibres géopolitiques. C'est vraiment ça qui se passe. Et donc, que ce soit la Russie, que ce soit ce qui se passe... Enfin, on le voit bien partout dans le monde, même au niveau de la relation entre l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, la Russie, la Chine, on se rend compte qu'il y a une espèce de musculation internationale qui est en train de se faire. Vous voyez, ne serait-ce qu'en Chine, le défi militaire complètement hallucinant qu'on a vu, très impressionnant. On se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, je termine par là, si vous voulez bien, c'est vraiment une démonstration de force qui crée le jeu diplomatique. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend très attentifs, parce que la démonstration de force, c'est celle qui crée quelque part...
Reviens aux drones, parce qu'on a évidemment posé la question à Théo Franken, et on va y retourner, mais d'abord des messages, me dit-on, et vous êtes déjà très nombreux à commenter ce qui est en train de se dire sur ce plateau, des messages qui vont en sens divers. Jean-Yves nous dit, ne vaudrait-il pas mieux acheter pour le même prix une grande quantité de drones, intercepteurs de drones, plutôt que quelques F-35 supplémentaires? On dit souvent que les F-35, c'est le bazooka pour abattre la souris face à un drone. Et Daniel Alini nous dit, pourquoi ne pas abattre ces drones ou avions qui survolent l'espace de l'Union européenne? Ne pensez-vous pas que sans intervenir, les armées des pays de l'Union européenne donnent le message de faiblesse et sont peu crédibles dans leur capacité de défendre leur territoire? Un mot de Théo Franken là-dessus, on l'écoute.
Normalement, on doit les abattre, on doit les prendre. On doit les voir, détecter. Et deuxième, on doit avoir les outils pour les abattre. Et on va les acheter. Vous devez savoir, les 4-5 années, les 4-5 années passées, on n'a presque rien. C'était pas possible parce que c'était immoral d'armer les drones. Maintenant, on est en arrière, hein, et on doit augmenter nos efforts, on doit aller plus vite et très vite. C'est dans la vision stratégique. Moi, j'ai pris cette option. Je suis ministre depuis 8 mois. Mais on doit faire plus et on va le faire dans la semaine qui vient.
Commandant Engelen, très brièvement si vous voulez bien, est-ce qu'on est vraiment en retard dans la lutte anti-drone ou est-ce qu'on exagère un peu le tableau?
Alors, par définition, dans une lutte anti-quelque chose, vous êtes toujours en retard. Ce sont des contre-mesures, ça veut dire que vous développez des contre-mesures à partir du moment où les mesures sont connues. Ici, on a une augmentation massive de l'utilisation de drones, ça veut dire que nous allons devoir rapidement augmenter notre capacité à y réagir. Et c'est ce qui est en train d'être fait, mais ça prend du temps et ça demande des moyens aussi. Je voudrais revenir une seconde sur les
fameux... Brièvement, si vous voulez bien qu'on ne prenne pas trop de retard pour les autres thématiques, s'il vous plaît.
Je vous rappelle quand même que pendant la guerre froide, notre budget était de l'ordre de 4% du PIB que nous consacrions à la défense, et c'est peut-être pour ça que ça a marché.
On va s'intéresser aussi aux cyberattaques. Est-on assez armé, entre guillemets, par rapport à ces cyberattaques? A-t-on assez d'outils? C'est la question qu'on vous a posée là encore via l'application RTBF Actu. La Belgique est-elle suffisamment outillée? Vous pensez que non à 76%. C'est un chiffre là encore qui interpelle. Et je vais me tourner vers l'écran. On va accueillir à distance Fedra Klouner, qui est la directrice adjointe du Centre belge pour la cybersécurité. Bonsoir Madame Klouner. Peut-on dire que ces cyberattaques, elles viennent de la Russie, ou est-ce que c'est absolument impossible à dire?
Bonsoir à tous. Je me permets d'abord de nuancer un tout petit peu. Il faut quand même savoir que les attaques qui sont lancées par d'autres États, que ce soit les Russes ou d'autres États, c'est vraiment une partie extrêmement minime des attaques qui peuvent toucher la Belgique. La plus grosse partie des cyberattaques dont nous sommes victimes, c'est des attaques qui sont lancées par des cybercriminels et dont la motivation première est essentiellement l'argent ou le vol de données. Néanmoins, il est clair que la situation géopolitique a quand même un impact au niveau de la cybersécurité. Et le phénomène que l'on constate le plus à ce sujet-là, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'activisme. Alors l'activisme, ce sont des personnes qui ont une motivation idéologique, qu'elle soit politique, religieuse ou autre. Et en ce qui concerne notre contexte spécifique là, il y a des sympathisants qui se proclament sympathisants de la Russie, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Ça, c'est un autre problème, qui lancent des attaques DDoS. Et une attaque DDoS, c'est faire en sorte qu'un site internet soit inaccessible. Ce n'est que ça. Donc il n'y a pas d'intrusion, c'est vraiment rendre le site inaccessible. On en a vu beaucoup, vous en parliez effectivement en début d'émission, avec effectivement des sites d'administration, des sites de partis politiques, des sites d'infrastructures critiques qui ont été rendus inaccessibles pendant quelques minutes ou parfois quelques heures. Mais comme je disais, l'impact est vraiment limité et c'est essentiellement lancé parce que c'est particulièrement visible, en fait, quand le site internet d'une infrastructure critique ou d'une administration ou d'un parti politique ou du Parlement ou que sais-je est touché. Et c'est surtout au niveau réputationnel que tout se joue, en fait.
Merci, Madame Kouner. Vous aviez un tout petit peu anticipé ma deuxième question, puisque j'allais vous demander ce qu'on connaît le but. Non, mais c'était très bien et c'était très clair, et c'est pour ça que je me suis permis de vous laisser poursuivre. La réponse était limpide. Merci pour cela. Joseph Enrotin, est-ce que c'est possible d'identifier les auteurs de ce genre d'attaque ? J'entends qu'il ne faut pas pointer le doigt sur la Russie, peut-être des gens en lien avec la Russie. On parle aussi beaucoup souvent d'organisations mafieuses.
Alors oui, alors effectivement dans le domaine cyber, d'une manière générale, l'identification des auteurs est très difficile, l'attribution des attaques est très difficile. Ce qu'on constate aussi, c'est que des attaques effectives sur des infrastructures vitales, au-delà des défaçages de sites, se sont produites. Je pense au cas des Allemands notamment, et de toute la partie nord en fait du réseau ferroviaire allemand, qui a été très fortement perturbée l'année dernière par des attaques qui étaient clairement des attaques très professionnelles, avec des systèmes.